Chers frères et sœurs, bonjour. Belle journée d'automne, ou bientôt d'automne. Je ne sais plus si c'est le 21 ou... Ça y est, on est en automne. Ça n'a rien à voir avec mon sujet. Qui est le plus grand parmi nous? Alors, le plus petit, je sais qui c'est. Qui est celle qui a le plus de qualités spirituelles parmi nous? Bien sûr que si je pose cette question, personne ne va dire moi. Certains taquins vont dire « ouais, c'est toi ». Le plus grand, la plus grande parmi nous, c'est une question qui a été posée par les disciples à Jésus. Qui est le plus grand parmi nous? Verset 1er du chapitre 18 de l'évangile de Matthieu, et c'est ce chapitre que je voudrais parcourir avec vous ce matin, avec un point particulier sur ce fameux verset qui a été cité, là où deux ou trois sont assemblés pour mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous allons tous dire que nous sommes petits, plus petits les uns que les autres, devant la grandeur du Seigneur, devant les défis de la vie. Et nous aurons raison d'ailleurs, parce que le Seigneur lui-même a dit, quiconque se rendra humble comme cet enfant que Jésus était en train de montrer à ses disciples, qui lui avait demandé qui est le plus grand, sera le plus grand dans le royaume des cieux. D'entrée, nous voyons bien que, d'ailleurs, même si notre discours est très policé, même si nous savons qu'il ne faut jamais dire que l'on pense que l'on est le plus grand, ce serait politiquement, chrétiennement incorrect. Mais n'y a-t-il pas des voix secrètes dans nos cœurs qui nous disent « je ne dis rien ». Mais je n'en pense pas moins. C'est moi le plus grand. C'est moi qui sais mieux ma Bible que les autres, qui fais de plus belles prières que les autres, qui chante mieux que les autres, qui suis plus consacré que les autres. C'est moi. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Celui qui se fait humble comme ce petit enfant, a dit Jésus. Et la suite du chapitre, Jésus va parler des petits. Le petit, c'est quelqu'un de fragile dans ce texte. Je précise, dans ce texte. Le petit, c'est celui qui peut chuter dans ce texte du chapitre 18. C'est celui qui n'a pas suffisamment de force, de résistance. Il ne faut pas semer le trouble dans le cœur du petit, prévient Jésus, parce que Dieu a ses yeux dessus. Il veille particulièrement sur celles et ceux qui ont des difficultés à marcher dans la vie chrétienne. Et ce que nous avons entendu ce matin comme témoignage de la part de notre sœur en est une preuve. Pousser un petit à faire le mal, nous dit Jésus dans la suite du chapitre, à partir du verset 6, c'est hautement condamnable. Gardez-vous, dit-il au verset 10, de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient constamment le visage de mon Père qui est dans les cieux. Le petit est d'autant plus précieux aux yeux de Dieu qu'il est petit. Qu'a fait Jésus dans ce domaine du soin des plus fragiles? Un homme haï par le peuple parce qu'il collectait les impôts pour un pouvoir détesté, il a fait une visite largement médiatique à une femme accusée d'adultère et sur le point d'être lapidée. Il a désamorcé la condamnation et libéré cette femme de l'accusation de ceux qui voulaient lui jeter des pierres. À une autre femme qui était impure, selon les rituels juifs, en permanence, parce qu'atteinte d'une hémorragie, il a offert la pureté par la guérison. À une veuve qui pleurait la mort de son fils, il a redonné vie à son fils. À un brigand crucifié pour ses crimes, il a promis le paradis. Jésus a pris soin des plus petits qui étaient autour de lui. à des enfants qui voulaient le voir. Il a offert ses bras ouverts et rabroué les disciples qui leur barraient le chemin. Et Jésus est là, c'est ce Jésus qui est là aujourd'hui parmi nous. Il est dans son église ici, comme dans bien d'autres lieux. Jésus est là. Ce Jésus qui prend soin des petits. Alors nous, que faisons-nous des petits? Prenons soin des enfants, par exemple. Et nous avons bien fait tout à l'heure de prier pour les personnes qui s'occupent d'eux. Le Père Céleste les a sous ses yeux. Prenons soin des personnes fragiles, psychologiquement, en détresse sociale, en santé difficile. C'est à cet endroit que Jésus donne la parabole du centième mouton. On la connaît tous, pour ceux et celles qui ont fait leur parcours dans cette église ou dans d'autres. Alors la parabole du bon berger qui va chercher le centième mouton égaré, on la connaît tous, mais elle est très, très simple à retenir. Et en même temps, on a tous été à un moment donné le centième mouton là, non? C'est pas que nous, les 99 juste bons qui n'ont jamais de problème, c'est nous aussi le centième. J'en fais partie du centième, je l'ai été trop souvent dans ma vie, le centième que le bon berger va chercher. Alors le centième, il y en a, on est tous des centièmes? Bon, alors là, je ne sais plus trop compter après, hein. On est tous des centièmes, prenez ça comme vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Et si Jésus est le bon berger qui va prendre soin de la centième brebis qui était partie, il n'y aura pas dû, mais qui est partie. Prenons soin les uns des autres, comme le bon berger nous en montre l'exemple. Prenons soin de celles et ceux qui s'éloignent, qui faiblissent, qui craquent. Ne les jugeons pas, nous pourrions nous aussi être la centième brebis, et nous l'avons été. Un petit, c'est ça, c'est cette fragilité-là, de la centième brebis. Cela nous inculque une notion de la vie d'église où chacun a sa place, chacun son importance. C'est compliqué parce qu'on ne se connaît pas tous, on n'arrive pas à tous se saluer à la sortie du culte. Mais ayons ce souci dans les groupes de maison, ayons ce souci dans notre cercle de personnes que nous connaissons. Prenons soin les uns des autres. Imitons ce bon berger. Et comprenons que chacun dans l'Église a sa place, a son droit d'être là. Le petit, c'est celui qui a du mal à résister au péché aussi. Verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. Mesdames, ça concerne aussi les sœurs. Je vous rappelle que dans le Nouveau Testament, les frères et les sœurs peuvent être désignés par un même mot. Vous péchez aussi, je crois. Et nous pouvons nous rassembler sur cette idée qu'ensemble, nous avons à nous exhorter aussi à nous secourir les uns les autres quand il y en a un qui flanche. Quand il y en a un qui se laisse aller parce qu'il craque, parce qu'il a du mal, il n'arrive plus à lutter, il en a marre. Encourageons. Chacun a son importance. Le contre-toi, si ton frère a péché contre toi, n'est pas dans tous les manuscrits. C'est intéressant de le noter. Il s'agit bien, si nous élargissons, de toute personne qui, dont on voit, dont on constate que sa vie chrétienne a du mal à tenir. Que sa foi chrétienne a du mal à se traduire en acte par un comportement. Il s'agit peut-être d'une personne qui se laisse piéger par de mauvais penchants. Mais bon, je suis sûr qu'il n'y en a pas du tout dans notre Église, n'est-ce pas? À part moi, bien sûr. Non, nous en faisons tous partie, je le dis et redis. Alors, nous étions partis de qui est le plus grand, hein? C'était la question de base, de départ du début du chapitre 18, et regardez, nous en sommes. Jésus, pour répondre à cette question qui est le plus grand, leur dit, répond, parle des petits, parle de notre faiblesse, notre agilité. La question n'est donc pas de savoir qui est le plus grand, après tout, ça n'a aucune importance. La question, c'est de s'entraider. Parce que tous, nous sommes petits, finalement. La question, c'est d'être solidaire, d'être honnête, d'être fraternel. Si je me prends pour le plus grand, si je veux briller de ma grandeur spirituelle, alors je laisserai le petit croupir dans sa médiocrité spirituelle. Je le laisserai aligner les bêtises en le regardant de haut, en se disant façon pharisienne, hein, moi je vaux tellement plus que lui. Souvenez-vous cette petite histoire que Jésus a racontée de deux hommes dans un temple, celui de Jérusalem, dans le temple, où l'un justement se mettait devant, bombait le torse et disait « Regarde Seigneur quand même ». Et l'autre se frappait le torse et disait « Pardonne-moi ». Qui est sorti justifié du temple, a dit Jésus ? Celui du fond, qui se frappait le torse en disant à Dieu « Pardonne-moi ». Il ne s'agit pas toujours de battre sa culpe, mais quand même, à un moment donné, ça fait du bien, et nous l'avons vécu ce matin. Merci aux personnes qui ont animé ce temps de déposer aux pieds du Seigneur nos fautes, ce qui n'a pas marché. Voilà, Seigneur, merci pour ton pardon et ta grâce. Oh, ça fait du bien. Restons-en à cette idée-là du pardon de Dieu. Et voyons les choses, non pas en concurrence les uns avec les autres, mais dans la solidarité fraternelle. Tu es grand ? Dieu t'a-t-il donné des dons, des capacités ? Au lieu de regarder les autres de haut, fais-les agir pour leur bien. Tu es grande ? Prends d'autant plus soin de celle qui est petite. Voici une bonne manière de faire pour notre Église. C'est une règle porteuse de vie. Je peux citer aussi la lettre aux Romains, par exemple, où Paul s'adresse à des grands et des petits, sauf qu'il utilise un autre mot, les forts et les faibles. C'est pareil, hein, y a la même dialectique, là. Si je vous demande qui est le plus fort parmi vous, tout le monde va dire « non, moi je suis plutôt... » Mais quelque part, on sait qu'on a des ressources. Et la logique que Paul développe, c'est que les forts, entre guillemets, doivent prendre soin des faibles. Comme ce que Jésus dit ici, les grands, entre guillemets, doivent prendre soin des petits. On n'est pas dans le chacun pour soi, on n'est pas dans la surveillance des autres, on est dans l'aide mutuelle, paisible, toute simple finalement. Comme dans une équipe en sport collectif, comme dans une équipe de randonneurs, de montagnards, comme dans une équipe de course cycliste, ou comme les exemples sont légion. Bah, tenez, comme dans l'armée aussi, légion. Et puis nous arrivons à notre phrase. Je vous dis encore, verset 19, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont rassemblés pour mon nom, je suis au milieu d'eux. Je note plusieurs choses dans ces deux versets 19 et 20. La première, Jésus parle de deux personnes. Or, juste au-dessus, il était écrit, verset 16, « Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. » C'était une règle qui était citée à propos de... C'est un texte qu'on cite souvent sur comment faire, sur l'attitude en Église à avoir quand quelqu'un vraiment oublie la foi, laisse tomber la foi. Et puis là, Jésus se remet à parler des deux. Et il dit, d'entre vous s'accordent sur la terre. Pourquoi dit-il sur la terre ? Limite, s'il ne met pas sur la terre, on comprend aussi. On ne va pas s'accorder d'ailleurs où ? Sur la lune, ça sert à quoi ? Pourquoi sur la terre ? Regardez au-dessus, toujours pareil. Verset 18, « Amen, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Expression juive à laquelle il ne faut pas accorder un sens forcément très littéral, ça veut dire « vous avez de l'autorité ». Il y a des choses vraies et fortes qui se passent dans l'Église. Et c'est pour ça que Jésus embraye en disant « sur la terre ». Et il ne s'agit pas là de juger d'une chose, il s'agit maintenant de la présenter à deux ou trois devant le Seigneur, devant le Père Céleste. L'apôtre Paul avait établi cette règle pour qu'on parle, pour qu'on sache quoi faire quand quelqu'un ne pratique plus sa vie de chrétien ou de chrétienne. Nous sommes dans un contexte très juif. Tout l'évangile de Matthieu est très juif. Mais là en particulier, puisque au verset 17, je le reprends un petit peu pour expliquer la suite. Au verset 17, il est écrit « S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un non-juif. » Ça veut dire que là, on est dans le contexte, le non-juif, c'est quelqu'un que les juifs ne fréquentaient pas. Donc, qu'il soit pour toi comme un non-juif, ça veut dire faut un peu couper les ponts. Ça peut arriver, je ne vais pas rentrer dans c'est pas trop mon sujet de ce matin, mais ça peut arriver parfois que dans une église, on doive se protéger d'une personne qui est malfaisante et qu'on doive le considérer comme un non-juif. Alors, il faut comprendre l'expression dans le contexte de Matthieu. Et précisément, c'est pour ça que j'étais passé par là, quand Jésus dit au verset 20, quand deux ou trois, on est toujours avec nos petits chiffres, deux ou trois, quand deux ou trois sont rassemblés pour mon nom, je suis au milieu d'eux. Cette petite phrase-là, pour un juif, sonnait synagogue. Il était d'usage, pour ne pas dire de règle, de considérer qu'on pouvait avoir une réunion à la synagogue avec deux ou trois. D'autres règles existent sur 10 hommes, mais ce qu'on appelle la Shekinah pour les connaisseurs, la présence de Dieu. Quand Dieu vient demeurer, c'est quand il y a deux ou trois croyants. C'était le contexte dans lequel Jésus a exprimé cette phrase. Autrement dit, il s'attribue une parole qui, c'est à la limite du blasphème ce qu'il dit. Si on considère qu'il n'est pas Dieu, pour certains juifs auront dit à ce moment-là, il se prend pour Dieu, je suis. Et non pas, il y a la Shekinah, la présence de Dieu, mais je suis, dit Jésus. Une phrase très très forte dans ce contexte juif. Nous n'agissons pas seuls. Ce contexte-là, il est important de le souligner parce que, on entend souvent, je l'avoue, j'ai dû le dire aussi, hein. C'est bon, on est 15 pour la réunion de prière, on est au-dessus du nombre, deux ou trois, ça va, on est... Donc on peut prier, le Seigneur va nous entendre, et puis on peut lui demander plein de choses, il va nous les donner. C'est marqué, hein, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné. Ok, alors on veut quoi? Alors on fait la liste de courses, et voilà, etc. Or le contexte qu'on a ici, c'est celui de notre fragilité. C'est celui de notre capacité à pécher, à nous disputer, à nous refuser les pardons. Parce que la suite de cette phrase très forte, Pierre l'a comprise. Et il n'était pas du tout dans le « Bon Seigneur, je vais demander un nouveau bateau pour aller pêcher ». Non, il est, verset 21, Pierre vint lui demander « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi ?» Vous voyez, Pierre n'est pas dans la foi, ce qu'on appelle la théologie de la prospérité, hein, il suffit de demander et puis voilà, Dieu vous donne, Dieu vous donne, Dieu vous donne. Non, quand Jésus parle de ça, c'est parce qu'il veut, il sait que les petits vont demander quelque chose et que ça ne leur sera pas refusé. Que quand on a des problèmes ensemble, quand on a du mal à bien s'entendre, quand on a des personnes parmi nous qui flanchent dans leur vie spirituelle, alors là, on va se réunir et on va prier pour elles. Et là, deux ou trois qui se rassemblent, Jésus sera au milieu d'eux. Jésus est là, au milieu de nous, lorsque nous avons des problèmes et que nous l'invoquons. Sa présence ne fait pas défaut. Il ne nous abandonne pas à cause de nos discussions oiseuses, à cause de nos disputes. C'est précisément là qu'il est plus présent encore. Mais c'est à nous de lui parler. C'est à nous de nous arrêter et de dire « Bon, maintenant, réunissons-nous autour du Seigneur qui est là. » parce que nous sommes rassemblés en son nom. Et rassemblons-nous de cœur autour de lui. Lorsque nous avons envie de nous énerver contre, et là vous pouvez écrire la phrase et mettre un prénom, il n'y a pas des gens qui vous énervent, vous ? J'espère ne pas en faire partie trop souvent. Jésus est là. Lorsque nous aurions tendance à mépriser quelqu'un, nous nous penserions à ce moment-là plus grand que lui, plus intelligente qu'elle, etc. Jésus est là. Lorsque nous nous sentons incompris, rejetés, petits, Jésus est là. Lorsque nous sommes découragés de tout, qu'on a envie de tout plaquer, on l'a entendu tout à l'heure, Jésus est là. Lorsque nous constatons avec tristesse des différences de point de vue entre nous, des choses qui peuvent même nous troubler, n'oublions pas, Jésus est là. Cela veut dire que chacun de nous est entendu, compris, pris en compte, mais aussi que devant le Maître, on ne fait pas n'importe quoi. On ne joue pas au grand. Alors oui, Jésus a promis, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, à la fin de l'évangile, l'évangile que nous avons ouvert, celui de Matthieu. Jésus a promis aussi dans son discours de l'évangile rapporté dans l'évangile de Jean, je serai avec vous pour toujours. Et il parlait de son esprit, de l'esprit de Dieu. Je conclus cette lecture rapide et je vous invite à redécouvrir ce merveilleux chapitre 18 de l'évangile de Matthieu. Je suis admiratif de l'ensemble de l'évangile et de l'ensemble de la Bible, mais ce chapitre 18 est un trésor dont nous retenons simplement ce que je vous propose en tout cas, cette idée de notre fragilité solidaire autour de Jésus qui lui est fort. S'il y en a un grand dans l'Église, c'est lui. Ce que nous vivons ici, nous le vivons autour de lui. Bien sûr, on peut dire, pas besoin de venir à l'Église pour vivre la présence du Seigneur. Ben, encore heureux, notamment pour ceux qui viennent une fois tous les quatre mois. Un petit coup de coude au passage, hein. Je dis ça, je dis rien. Encore heureux qu'on peut vivre la présence de Dieu partout où nous sommes. Mais quand nous nous rassemblons, et puis chez nous ici c'est le dimanche matin, quand nous nous rassemblons, nous vivons cette présence de Jésus d'une manière particulière, renforcée, parce que nous nous rassemblons pour son nom. Alors je nous invite tous à vivre notre vie d'église de cette manière. De cette manière où on peut dire les parcours qu'on a, on peut faire part des joies, des peines, et on s'entraide, et on vit la solidarité, la fraternité. Et je vous invite à prier. Notre Père Céleste, nous te remercions. Tu es aux cieux, mais tu es aussi dans nos cœurs. Présent par Jésus dans nos vies et dans notre communauté. Seigneur, nous sommes tous grands peut-être, mais surtout petits. Et nous te prions que lorsque nous voyons la fragilité de l'un, les difficultés d'une autre, nous sachions nous secourir mutuellement. Et lorsque c'est moi qui suis dans la fragilité, que je puisse accueillir l'aide fraternelle, l'encouragement, d'une manière positive et constructive. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette présence de Jésus qui est une bénédiction pour notre Église et pour toutes les Églises qui se rassemblent en ton nom. Amen.